7h40. Alors, voici donc notre invité ce matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Monsieur Trudeau, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être de retour.
Monsieur Trudeau, beaucoup de questions, évidemment, d'actualité. Je vais commencer avec l'immigration. Mm-hmm. Le gouvernement canadien, le Canada va signer le pacte de Marrakech la semaine prochaine. Un pacte chapeauté par les Nations unies. Vous le dites clairement, le Canada veut augmenter le nombre de réfugiés, d'immigrants au Canada. Québec a pris une position de réduction. Comment vous allez faire pour concilier votre vision et celle de la Coalition Avenir Québec?
Mais d'abord, il y a deux enjeux. Là. Le pacte, c'est le Canada qui est en train de montrer du leadership dans le monde. On sait qu'il y a des crises de réfugiés, de migration partout dans le monde. Et le Canada a un système qui fonctionne et on partage notre expérience positive par rapport à ça pour encourager plus de pays de regarder et des façons de mieux accepter, mais aussi des façons de travailler ensemble pour diminuer le nombre de réfugiés dans le monde. C'est ça le pacte global pour par rapport à l'immigration. Deuxièmement, par rapport à ici au Québec, on est en conversation avec le gouvernement de François Legault. On a invité le ministre Jolin Barrette à venir rencontrer notre ministre du Travail, le ministre de l'Immigration, pour parler justement de leur plan par rapport à l'immigration.
Mais ce que je veux comprendre plus précisément, là, mm-hmm. si vous voulez accueillir au Canada plus d'immigrants, plus de réfugiés, et que le Québec en veut moins, mm-hmm. vous allez les envoyer ailleurs au Canada?
Ben, c'est une conversation à avoir, mais moi, il faut que je dise, on est 40 députés libéraux au Québec et il n'y en a pas un qui me dit autre chose qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en région. Le Conseil du patronat, les entrepreneurs, même les agriculteurs nous disent on a une pénurie de main-d'œuvre, ça nous prend plus de monde parce qu'on est en train de vivre un frein à la croissance économique au Québec. On est en train de vivre une pénurie d'emplois.
Mais Québec dit on va donner des permis de travail. Donc, on ne veut pas avoir des immigrants ou des réfugiés, on veut donner des permis de travail aux gens.
Des permis de travail temporaires, c'est une préoccupation parce que c'est un système qui n'a pas toujours très bien fonctionné. Mais c'est justement ces conversations-là qu'on va avoir avec le Québec. Le Québec a été un partenaire exemplaire sur la question des demandeurs d'asile. Là. On a pu travailler avec eux.
Mais je vais vous dire, à ce moment-là, M. Trudeau, là. Pourquoi c'est si compliqué de rembourser le Québec pour les dépenses de ceux qui sont entrés par le chemin Roddam?
On veut absolument le faire et on est en discussion avec eux.
Mais c'est pas réglé encore.
C'est pas réglé encore, mais nous, on est là avec de l'argent pour la table, surtout pour le logement, mais on va parler d'autres choses aussi, parce qu'on reconnaît à quel point le Québec a fait un travail extraordinaire pour gérer cette situation avec nous.
Mais vous comprenez, là, c'est que d'un côté, on a un gouvernement qui nous dit, nous, on en veut moins. On a le fédéral qui a pas encore payé la facture pour ceux qui sont entrés. Puis vous nous dites en même temps, je veux en savoir plus.
Ben, ça fait des mois qu'on travaille avec Québec justement pour leur partager cette somme d'argent pour aider pour le logement. Et on attend juste à régler ça. C'est pas un manque de volonté de notre part. Il y a eu une élection qui a compliqué les choses. Et d'autre part, j'entends clairement des entrepreneurs, des gens en région. J'étais à Rouyn-Noranda il y a quelques mois. Ils me disaient, on a une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de gens ici. Alors, c'est une conversation complexe que j'ai très hâte à avoir avec le gouvernement du Québec.
Pourriez-vous pénaliser financièrement le Québec si on réduit le nombre de réfugiés, le nombre d'immigrants?
Écoute, je ne pense pas à des pénalités. Moi, je veux voir de la croissance économique au Québec. Je veux voir des Québécois contents de la voie sur laquelle on est. Et on va travailler ensemble pour ça.
Je reviens sur le pacte de Marrakech. Mm-hmm. Est-ce que... quand on le lit, là, je comprends que ce n'est pas un gouvernement mondial qu'on est en train de créer puis que les Nations unies ne viendront pas dicter les politiques en termes d'immigration au Canada. Mais ça sert à quoi, ce pacte-là? Sincèrement, là, c'est comme si d'un côté, c'est un pacte qui ne veut rien dire, comme des pactes en environnement, alors que ce matin, on a des chiffres qui montrent la croissance des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est pour la galerie? Est-ce que c'est du vent que finalement, c'est... Pour se donner une belle image internationale.
Je comprends que les gens au Canada peuvent se demander à quoi ça sert parce que nous, on est en train déjà de bien gérer notre système d'immigration. Même les demandeurs d'asile, là, on fait une analyse de sécurité, on le fait passer par notre processus. Il n'y a pas de raccourci pour arriver au Canada. On est en train de bien gérer notre système d'immigration. Mais partout dans le monde, en Europe, où il y a cette crise en Venezuela, qui a des millions de personnes qui se séparent éparpillé partout en Amérique du Sud. On a un grand défi parce que différents pays ont beaucoup de misère à voir comment gérer leur crise d'immigration. Alors, l'expérience
là, vous avez le cœur sur la main. Là, vous voulez ouvrir les portes du Canada.
Non, je veux partager les solutions que nous, on a au Canada parce qu'ailleurs au monde, ils n'ont pas ces solutions-là. Nous, la façon que nous, on procède à l'analyse et au traitement dans un système fort et robuste au Canada, c'est à partager avec le reste du monde et c'est ce qu'on est en train de faire.
En parlant d'argent, vous avez tweeté à un artiste dans le cadre, évidemment, il y avait une opération de levée de fonds pour aider les enfants à accès à l'éducation dans les zones frappées par la guerre. Un tweet de 50 millions. C'est pas votre argent, ça?
Ça fait plus que 3 ou 4 semaines que cette décision a été prise, qu'on allait investir 50 millions pour ce programme, pour aider des enfants vulnérables, 350 000 jeunes à travers le monde, je crois. Et on a décidé de l'annoncer dans le cadre d'un événement global, oui, avec des vedettes qui étaient très people comme événement, mais c'est une façon de partager ce que le Canada est en train de faire. Mais ça faisait partie, d'ailleurs, de l'argent qu'on a sécurisé lors de notre G7 à Charlevoix.
Donc, c'est pas un 50 millions additionnel?
Non, pas du tout. C'est à l'intérieur du cadre, mais on voulait que les gens en parlent du fait que le Canada est en train d'aider dans le monde.
Okay.
Et c'est ce que les gens font, ils en parlent.
Parlons environnement. Vous avez imposé une taxe du carbone aux provinces récalcitrantes. Le Québec impose déjà une taxe de carbone. Vous allez aider les familles canadiennes dans ces provinces à absorber le choc de la taxe du carbone. Qu'est-ce que vous allez remettre aux Québécois qui, eux, l'absorbent déjà?
Le Québec a déjà un système qui fonctionne très bien pour les Québécois. On voit vraiment que le Québec est un leader en matière d'environnement. Malheureusement, il y a des provinces comme l'Ontario, où des gouvernements conservateurs ne veulent pas mettre de prix sur la pollution, ne veulent pas protéger l'environnement. Ils travaillent d'ailleurs avec Andrew Scheer au fédéral, qui ne veut absolument pas prendre d'action sur l'environnement.
Et mais ma question, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est, vous compensez financièrement les autres Canadiens, mais pas les Québécois.
Parce qu'on impose un prix sur la pollution dans ces 4 provinces-là parce qu'ils ne veulent rien faire. Okay. Mais on n'a rien besoin d'imposer au Québec. Le Québec a déjà son système qui fonctionne très bien pour créer des avantages pour les Québécois et pour protéger l'environnement. Donc, parce qu'on n'est rien en train d'imposer, on n'a pas besoin de rembourser non plus. Vous avez un système super au Québec.
Mais M. Trudeau, c'est parce qu'un citoyen ontarien qui va payer une taxe sur le carbone va recevoir une aide financière pour absorber.
Parce que l'argent qu'il va payer en supplémentaire, les Québécois ne vont pas le payer.
Non, mais on le paye déjà.
Mais vous le payez à l'intérieur de votre système que le Québec a établi comme étant le meilleur système. Si le Québec voulait quitter son système
Mais la meilleure affaire, c'est que ce serait que le Québec abolisse son système, que le fédéral nous l'impose, puis là, on aurait de l'argent dans nos poches.
Mais on en imposerait aussi, le fédéral irait vous en chercher.
Mais vous viendrez me compenser comme les autres Canadiens.
Mais le Québec pourrait faire ça s'il voulait. Mais nous, ce qu'on reconnaît, c'est que le Québec peut faire et va faire ses propres choix. Et le Québec est un leader en matière d'environnement. On n'a pas besoin d'imposer d'autres coûts.
Non, mais je ne dis pas d'imposer un coût, on le paye déjà. C'est-à-dire que ce qui est frustrant, c'est que d'un côté, si j'étais ontarien et que ça me coûtait 100$ par année de taxes de carbone, votre gouvernement m'aiderait. Ça me coûte 100$ au Québec déjà, puis j'ai pas une scène.
Au contraire, le Québec a établi un système où ça coûte moins aux consommateurs parce qu'il y a une bourse du carbone, parce que le Québec est déjà en termes de leader. Nous, on impose, par exemple, 300$ de plus de coûts en Ontario et on leur paye 309$ par année. C'est pas une grosse somme, là.
Comment
c'est
vous,
quelque chose.
Ouais, comment vous conciliez votre discours vert préoccupé par l'environnement, avec l'achat d'un vieux pipeline qui a coûté quoi 4 milliards au gouvernement canadien, puis il y a un juge qui empêche évidemment de faire les travaux. Puis c'est quoi la logique entre je suis vert, je signe des pactes, puis en même temps, j'achète un vieux pipeline?
Deux choses. D'abord, la réalité, c'est que maintenant, on vend notre pétrole quasiment uniquement aux États-Unis. 99% de nos ressources pétrolières vont aux États-Unis et à cause de ça, on perd des milliards de dollars par année. L'Alberta est en crise parce qu'on se fait sous-payer, parce qu'on n'a pas d'autres marchés compétitifs pour nos ressources. Donc, de créer un oléoduc vers de nouveaux marchés d'Asie, ça va aider à avoir un juste prix pour nos ressources actuelles. On sait qu'on est en période de transition. On a besoin encore du pétrole pendant plusieurs années. Ça sert à rien de payer de perdre des milliards de dollars par année et des emplois à cause de ça.
Les Autochtones n'en veulent pas.
Deuxièmement, non, il y a plusieurs Autochtones qui en veulent. Il y en a d'autres qui n'en veulent pas et on est en train de consulter. Deuxièmement, à l'intérieur du plan pour contrer les changements climatiques, l'Alberta a accepté de mettre un cap absolu sur les émissions de gaz à effet de serre liées au sable bitumineux. Et ce cap rentre à l'intérieur de notre plan. On va pouvoir atteindre notre cible de Paris et nos cibles de Paris et l'oléoduc Trans Mountain ne vient en rien affecter notre capacité d'atteindre ces cibles-là.
Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les études montrent encore qu'il y a une accélération, que Paris, on ne sera pas capable globalement de l'atteindre. Et le Canada achète un pipeline. Pourquoi vous l'avez acheté? L'entreprise privée s'est retirée. Vous dites qu'il y a des Autochtones qui sont d'accord. Moi, j'entends ceux qui ne sont pas d'accord. Puis la Colombie-Britannique n'est pas non plus...
Pourquoi est-ce qu'on est allé de l'avant? Parce que... On ne peut pas, pendant qu'on a encore besoin de pétrole, pendant les prochaines quelques décennies, ce n'est pas au jour au lendemain de la transition, il faut qu'on s'assure qu'on maximise notre capacité justement d'investir dans cette transition, d'aider les gens dans cette transition. Ça, ça coûte de l'argent. Pour ça, ça prend un oléoduc vers d'autres marchés que les Américains.
OK. Parlons de cette nouvelle entente de libre-échange qui a été conclue avec les États-Unis et le Mexique. Un, vous n'aviez pas l'air ben content de signer ça. Deux, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur, nous a dit hier que le Canada a perdu dans ça, qu'on a dû laisser des éléments sur la table. Entre autres, le fait que demain matin, M. Trudeau, si vous voulez signer une entente commerciale avec la Chine, il faut aller la présenter aux Américains et aux Mexicains. Est-ce que vous avez abdiqué une partie de la souveraineté du Canada?
Non, pas du tout. Je pense que dans n'importe quelle situation où on signait un accord de libre-échange avec la Chine ou avec un pays grand comme ça, oui, on partagerait les détails de cet accord-là avec notre plus proche allié parce que c'est une affaire responsable à faire. Mais ça n'abdique en rien de notre
Est-ce que les États-Unis pourraient bloquer une telle entente?
Non, ils ne pourraient pas bloquer une telle
entente. Ils ne pourraient pas empêcher le Canada de signer une entente de libre-échange?
Absolument pas.
Alors pourquoi le représenter?
Parce que c'est eux, si eux, ils signent un accord de libre-échange avec la Chine, ils auraient l'obligation de nous présenter ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, je pense que ça serait très intéressant pour le Canada d'avoir ça aussi.
Dans l'entente qui a été signée, il y a une ouverture sur le marché du lait. Beaucoup de producteurs vous écoutent, des producteurs laitiers. Vous allez les compenser à quelle hauteur et ça va se faire quand?
On va les compenser à la hauteur nécessaire et justement, on est en train de travailler avec eux pour déterminer de quoi ils ont besoin comme compensation. On reconnaît que d'avoir sécurisé le commerce avec les États-Unis, c'est une bonne chose pour l'économie canadienne, c'est une bonne chose pour nos travailleurs, pour nos industries, mais on a dû faire des concessions au niveau du lait et... Avec la croissance économique qui va arriver ailleurs, on va pouvoir amplement compenser.
À quel moment vous allez annoncer, à quel moment vous allez dire à un producteur de Montcalm qui écoute ce matin, là, je suis compensé de quelle façon?
On va les compenser pleinement, mais on est en train de travailler avec eux, justement pour qu'ils nous disent à quel niveau les compenser.
OK.
Parce qu'elle n'est pas ratifiée encore. On n'a pas actuellement ces nouveaux taux d'importation en place. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit les compenser ou qu'on peut les compenser, malgré qu'il y a déjà des impacts, et ça, on en parle aussi.
Il y a plusieurs pays dans le monde qui amènent Netflix à charger la taxe locale du pays. Le Québec va imposer une taxe, donc qui sera perçue par Netflix. Pourquoi le Canada... ou pourtant une harmonie fiscale entre le Québec et le fédéral, pourquoi vous ne la chargez pas, la taxe?
Parce qu'on ne croit pas que c'est d'amener des solutions à la pièce qui est la solution ici. On est en train de transformer notre mode de consommation de produits culturels, on est en train de changer nos modes d'écoute de la télé. On doit réfléchir à comment créer un système qui fonctionne partout et pour tous les programmes et dans tous les pays. Il y a une nouvelle réalité internationale qui n'était pas là il y a 20 ans, il y a 10 ans même. Et donc, une réflexion robuste et concrète, c'est ça que ça prend. On ne peut pas juste faire des
mais il y a plusieurs pays qui le font. Là. Le Québec va le faire. Il y a d'autres pays dans le monde qui... Êtes-vous sous influence de Facebook, de Google, de Netflix? Mais... C'est comme si les géants numériques avaient une très forte influence sur vous.
Mais ce n'est pas Netflix qui paye la taxe. c'est les consommateurs qui paieraient
c'est
la
vrai.
Taxe. Et moi,
je la paye sur illico, je la paye sur les fournisseurs ici.
De ne pas augmenter les taxes sur les Québécois, sur les Canadiens.
Mais c'est pas d'augmenter les taxes, c'est de forcer une compagnie à appliquer une taxe qui est déjà imposée par les autres.
Je comprends, et on a eu pendant longtemps cet argument-là, mais moi je dis, on ne va pas imposer une taxe de plus sur l'Internet que les gens reçoivent à la maison. On va chercher d'autres façons d'aider nos créateurs culturels. On est justement en train d'investir énormément dans les arts et la culture à des niveaux records.
Je comprends, mais moi je vous parle de la justice entre les gens qui sont dans ce secteur-là. Si vous prenez illico, qui me charge une taxe, là, TPS, TVQ, mm-hmm. Netflix, va me charger que la TVQ.
Je comprends, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plus que juste Netflix, là, qu'on parle d'Amazon, qu'on parle de Facebook, qu'on parle de publicité. Il y a toute une révision à faire et de le faire à la pièce.
OK, ma question va être plus précise. Est-ce que vous avez l'objectif d'établir, appelons ça, une équité fiscale entre les entreprises québécoises qui chargent les taxes et les entreprises du monde numérique?
Oui. On a l'objectif de le faire. La meilleure façon de le faire, on ne l'a pas déterminé encore, mais on est en train d'y travailler.
OK. Cannabis maintenant. Québec, ça passe de 18 à 21 ans. Ça va passer. Qu'est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça?
On a légalisé le cannabis parce que la prohibition existante ne fonctionnait pas. Alors, je ne vois pas pourquoi de ramener une prohibition chez les jeunes de 18 à 21 ans qui, eux, sont parmi les plus grands consommateurs, ça fonctionnerait parce qu'on va tout simplement les envoyer, renvoyer dans les mains du crime organisé et c'est justement ce qu'on ne veut pas.
La loi fédérale prévoit qu'un consommateur peut avoir jusqu'à 3 plants de pot chez lui. La loi québécoise interdit d'avoir un plant de pot à la maison. Moi, je suis un consommateur, là, qui j'écoute, mon gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec? Qui a raison? J'ai 3 plans ou 0?
Le gouvernement fédéral a enlevé les pénalités criminelles pour la possession de plants à la maison, mais la province peut amener des pénalités non criminelles pour des plants à la maison. La province a le droit de le faire. Nous, on trouve que c'est pas une bonne idée parce que les experts nous ont dit qu'une consommation à la maison par certains particuliers, c'était une autre façon d'enlever des profits au crime organisé. Mais le Québec prend ses propres décisions.
Je dois vous laisser, je le sais, là, 2 questions en terminant. Mon collègue Drainville me disait tantôt que vous êtes en réflexion pour interdire peut-être certains types d'armes à feu au Canada. Autrement dit, resserrer le contrôle des armes à feu. C'est vrai?
Oui.
Vous allez interdire des armes?
On est en train de réfléchir comment on va mieux faire pour contrer la violence faite par les armes de poing et les armes type d'assaut. Là. Oui, c'est inacceptable ce qui se passe.
Mais donc, ultimement, les interdire.
Il y a différentes façons qu'on est en train de regarder, mais oui, on veut limiter l'accès facile que malheureusement qui demeure pour les criminels à des armes de poing et d'assaut.
Dernière question, votre voyage en Inde. Vous aviez combien de costumes, combien de déguisements, dans vos valises?
Vous savez peut-être que je représente le comté de Papineau, dont Parc Extension, où il y a une grande diaspora indienne. Et donc,
est-ce que c'était
too
much?
Des années, oui, c'était too much. Je reconnais, si j'avais à refaire, Paul,
ça, ça a fait le tour du monde en carte postale, oui, les émissions françaises.
Je sais. Et ce que je faisais de temps en temps dans des événements indiens dans mon comté, ça se traduisait mal, disons, à l'échelle internationale. C'est une leçon apprise, absolument.
M. Trudeau, merci de votre passage ici. 7h58, on va aller retrouver Marc pour le résumé de l'heure de pointe.